Les enfants avec des flingues, Kid with Guns, c'est un morceau de Gorillaz, et le fait que ce soit un morceau de Gorillaz qui est un groupe animé me fournit une excellente transition pour notre prochaine invité, qui est là depuis le début et qui trépigne quelque part de prendre la parole. C'est Xavier Fournier, rédacteur en chef de Comic Box.
On a évité la comparaison avec le gorille.
Non, vous l'avez évité parfaitement, je n'y pensais même pas. On écoute Gorillaz et ensuite ce sera à vous, Xavier, de nous expliquer toutes les apparitions de Trump et d'Hillary Clinton dans les comics américains. Xavier, bonsoir ou rebonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le rédacteur en chef du magazine Comic Box, le premier magazine français sur la question des comics, on peut le dire sans se tromper. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur la question des super-héros. Il y en a un notamment intitulé « Super-héros, l'envers du costume » paru il y a quelques mois aux éditions Fantasque, dans lequel il y avait un chapitre dans lequel vous releviez avec humour les apparitions, notamment de Bill Clinton dans les comics américains. Il y a un passage où il est dit que Hulk a hésité un moment à exprimer son soutien à Bill Clinton lors de certains épisodes assez célèbres.
Ouais, en fait, c'est une vieille tradition, le rapport avec le président américain qui remonte pratiquement au début des comics et au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc tous les héros patriotiques défilaient à la Maison Blanche pour rencontrer Roosevelt dans des aventures ou des choses comme ça. Ça s'est poursuivi un petit peu mécaniquement après, et vers la fin des années 60, on a pris un peu les distances parce que ça allait jusqu'à Kennedy. Après, Lyndon Johnson était beaucoup moins glamour. C'était le président du Vietnam et on voulait pas trop mettre les pieds là-dedans, remplacé par Nixon. Alors là, à partir de ce moment-là, on rentre vraiment dans des choses assez cocasses. Il y a des épisodes de Captain America qui dénoncent Nixon comme étant un comploteur qui veut prendre le pouvoir aux États-Unis et des choses comme ça. Et finalement, au moment de l'élection de Bill Clinton, on rentre dans un modèle de président à nouveau nonchalant, un petit peu sympathique qu'on peut fréquenter quand on est super-héros sans avoir peur de se mouiller, en tout cas au début. Et donc Hulk va rencontrer ce personnage-là à un moment où le personnage de Hulk dans sa propre bande dessinée est plus ou moins populaire, donc il peut se permettre d'aller dans le sens de ce président. Mais quelque part, la carrière de Clinton va trop durer. Il va y avoir deux mandats, et au fur et à mesure que son image va décliner, et ben on va voir des choses remonter à la surface. C'est-à-dire que souvent, il y aura des matchs retour, il y aura des gens qui ont encouragé ou qui ont applaudi l'élection de Clinton qui seront un petit peu tenus de dire bah, attendez, finalement, je ne le connaissais pas si bien que ça. Et donc, par exemple, il y a toute une saga de Captain America où le personnage est trahi, il est victime de conspiration et Clinton le convoque et lui enlève tout ce qui rappelle qu'il est un Américain, et Captain America est expulsé en dehors des États-Unis pendant quelques épisodes, le temps qu'il montre qu'il est innocent. Mais Clinton n'avait pas vu la justesse de la situation. Donc voilà, on comprend que c'est quelque chose de défaillant, et plus on avance vers la fin du mandat, et plus on a la question du sexe. Alors il y a des choses assez rock'n'roll, on va dire.
Il y a un numéro d'Amazing Spider-Man qui est rentré dans l'histoire. C'est le numéro 583, paru en 2009, dans lequel Spider-Man sauve Barack Obama en parallèle de sa cérémonie d'intronisation. Ce numéro est historique parce qu'il s'est écoulé à 530 500 exemplaires, qui a été la plus grosse vente de la décennie. Vous avez remis les compteurs à zéro pour essayer de, dans le magazine Comic Box en septembre dernier, pour rappeler depuis Obama quelles sont les différentes incursions du politique dans le comics. Avant que vous rentriez dans les détails, est-ce que c'est vraiment le média le plus populaire, les comics? C'est l'un des médias les plus populaires, les comics. Est-ce que c'est aussi, d'une certaine manière, un indicateur de l'inconscient ou bien d'un certain impensé du peuple américain?
Les plus populaires, je ne saurais pas dire, à l'heure où il y a les réseaux sociaux, les choses comme ça. Forcément,
ça continue de marcher.
Les comic books ont gardé une tradition de presse. Il y a des temps de production qui sont très courts. C'est-à-dire que quand vous avez le 11 septembre en 2001, deux mois et demi plus tard, vous avez l'épisode de Spider-Man où le héros voit les tours s'effondrer. Il y a vraiment quelque chose de
réactivité
qu'on a un peu perdu, nous, en Europe, on va dire, en particulier au moment de la Seconde Guerre mondiale, parce que les dessinateurs engagés ont eu des problèmes au moment de l'occupation, et les dessinateurs qui avaient fait un autre choix ont eu des problèmes au moment de la libération. Donc en dehors du dessin de presse qui a beaucoup gardé ça, il y a quelques exceptions comme la BD Quai d'Orsay, mais c'est très limité. On a plutôt délégué la satire politique au dessin de presse, et la bande dessinée s'est un peu éloignée de ça. Aux États-Unis, on reste là-dedans, et on y reste avec une violence et avec un rythme. Je pense que ça ne serait pas toléré en France. Souvent, c'est des choses qui vont assez fort. George Bush Jr. est vraiment passé pour un crétin pendant son passage à la Maison Blanche. C'est-à-dire que les comics se sont déchaînés sur lui. Vraiment, il y a des choses. Il y a un épisode des X-Men où il y a deux personnages, deux mutants, donc qui ressemblent pour cet épisode-là, qui ressemblent aux acteurs Pierce Brosnan et Alberi. Et donc, on voit que on a été un peu dans le sens d'un James Bond. Et Bush les croise. Et il les prend pour les personnages. Donc on a vraiment affaire à un demeuré. Enfin, il est vraiment décrit comme ça dans le comic book. Obama, c'est le retour d'un président présentable, c'est le retour d'un président sympathique, en tout cas de l'œil des comics. Et à plus forte raison, c'est un président qui s'est déclaré comme geek. C'est-à-dire que c'est un type qui est capable d'arriver dans une conférence de presse et de dire « Je vous ai réunis aujourd'hui parce qu'on va construire, on a décidé de construire l'armure d'Iron Man », ce qu'il a fait. Il y a des choses comme ça. Donc, du coup, c'est vraiment un gars qui parle le même langage que les auteurs et les lecteurs de comics, et la chose montait un petit peu. Et il y a une BD assez peu connue en France, parce qu'elle a arrêté d'être publiée depuis quelques années, qui s'appelle Savage Dragon. Il y a une vraie tradition de l'auteur Eric Larson, à chaque fois, de faire le point dans lors des élections. Je crois d'ailleurs que c'est peut-être la première fois qu'il ne le fait pas cette fois-ci. Et en général, on sait qui Savage Dragon va supporter ou pas. Il y avait eu un épisode avec Obama qui avait vu un petit pic de vente. Et d'un seul coup, quand ce petit pic de vente est arrivé, tous les gros éditeurs se sont dit « nous faut un épisode avec Obama ». Et donc, il y a eu un épisode d'Amazing Spider-Man qui fait suite immédiatement à l'élection, où il y a ce rapport-là, bien entendu. C'est « regardez, je croise Obama ».
Et on sait que, grosso modo, les auteurs et dessinateurs ont plutôt une sensibilité démocrate.
Il y en a de tous les bords, mais c'est vrai d'abord qu'il y a une tradition de la production de comics qui est essentiellement, qui a longtemps été basée à New York. Donc déjà, ça, en termes de démographie, ça définit des choses. Il y a aussi le fait que c'est plus ou moins bien vu dans l'entertainment d'afficher des valeurs conservatrices. Donc les quelques auteurs conservateurs le disent pas toujours. Et ceux qui les disent, par contre, ils assument à fond. Mais globalement, oui, on va dire qu'on est plutôt dans un rapport qui penche énormément vers les démocrates.
On va faire une toute petite pause et ensuite on va rentrer dans le dur d'essayer vraiment avec vous, de comptabiliser, regarder de plus près les apparitions d'Hillary Clinton et de Donald Trump dans des comics qui ont été publiés très récemment aux États-Unis. Mais fort d'une tradition régulière dans l'histoire du comic book, c'est-à-dire celle du crossover, où on prend deux héros avec leurs deux mythologies et on les fait se rencontrer. Il y aurait qu'un jour, une légende de la country, Willie Nelson, a rencontré une légende du gangsta rap, Snoop Dogg. Ils ont fait un morceau ensemble et il s'intitule Superman.
You know, Snoopy, a little while back, I had one of those carpal tunnel operations, and the doctor said, I want you to go home and shut up for 4 months. And that's kind of tough. I said, I'll try. But while I was there, I wrote this song. Too many pain pills, too much pot, trying to be something that I'm not. Superman, Superman, trying to do more than I can. Got a little out of hand, I ain't Superman. Know what I'm talking about?
I blew my throat and I blew my toe. I wound up sipping on soup to show I wasn't Superman. Oh no, I wasn't Superman. I'm trying to do more than I can. I got a little out of hand. I wasn't Superman.
I hear you. Nicky, play one. It's a crying shame, but you ain't Clark Kent and I ain't Lois Lane. You ain't Superman. You ain't Superman. Trying to do more than you can. Got a little out of hand. You ain't Superman. What do you think, Snoopy?
Well, when I die, put it on my stone. God said, Snoopy, take your bad ass home. You wasn't Superman. No, I wasn't Superman. I'm trying to do more than I can. I got a little out of hand. I wasn't Superman.
I hear you. Trying to do more than I can. I got a little out of hand. I ain't Superman.
Yeah.
California, New York Island, this land. From the redwood, your land. To the gold, this land. My land. Land was the name for you and me. Nos États d'Amérique.
Alors ce n'est pas Superman que l'équivalent dessiné d'Hillary Clinton ou de Donald Trump ont rencontré dans les comics américains ces derniers mois. Il y a déjà plus, ça arrive plutôt dans les séries de Captain America. Vous le disiez en début d'émission, je veux bien que vous le rappeliez pour ceux qui prennent l'émission en cours.
Captain America, c'est beaucoup plus facile de parler de la nature de l'Amérique avec un personnage qui a le drapeau sur son costume. Maintenant, souvent, vu de l'Europe, on regarde Captain America et on se dit quel outil de propagande, et on se trompe un petit peu parce que ce personnage, au contraire, a souvent un regard très critique. Et tout à l'heure, je passais vite fait sur le croisement avec Richard Nixon. Il faut savoir que quand il y a eu l'affaire du Watergate aux États-Unis, il y a toute une saga dans Captain America qui s'appelle la saga de l'Empire secret, où des comploteurs, un peu l'équivalent de la cagoule, veulent prendre le pouvoir aux États-Unis. Et le dernier comploteur encore en liberté se dirige vers la Maison-Blanche. Captain America le poursuit jusque dans le bureau ovale parce qu'il a peur que le comploteur tue Nixon. Et en fait, il n'y a personne d'autre dans le bureau ovale, parce qu'on comprend que le comploteur, c'est Nixon. Et ce comploteur-là se suicide hors champ devant un Captain America horrifié. Ah oui. Donc il y a des choses vraiment très, très dures. Captain America ne se complaît pas à décrire l'Amérique en disant c'est bon, tout va bien, c'est le rêve américain. C'est plutôt vraiment un personnage qui dit il faudrait qu'on fasse ça. Donc il y a toujours ce truc-là, et effectivement, forcément, il y a des visites assez régulières à la Maison-Blanche.
Oui, par exemple, quand l'histoire de faire l'hypothèse de faire construire un mur entre les États-Unis et le Mexique pour stopper l'immigration clandestine mexicaine ou l'immigration tout court, c'est réintervenu dans une des aventures de Captain America.
Oui, tout à fait. Je crois même qu'il y a, finalement, il y a un effet indirectement positif à la présence de Trump, qui est qu'il y a une repolitisation un petit peu de ces derniers temps de la bande dessinée américaine, alors bizarrement, surtout chez Marvel, qui est vraiment de venir sur tous les terrains, quoi, de venir à ça. Et donc, dans le Captain America actuel, le détenteur du titre, et bien donc, il s'oppose dans une suite d'épisodes à ces gens qui patrouillent le long de la frontière pour empêcher que les Mexicains sans papier passent. Donc il prend le parti des
Mexicains.
Des Mexicains. Il prend comme assistant, comme ami, un type qui est assez connu dans les comics depuis assez longtemps, qui s'appelle Rick Jones, et qui est le chic pour aller choper des informations sur Internet et les rendre publiques. Donc, fondamentalement, on aura compris que c'est une sorte de Snowden. Il y a plein de choses comme ça. Et on peut regarder les histoires de super-héros en se disant, bah oui, finalement, ce sont des gens avec des capes qui volent dans le ciel. Voilà. Mais c'est un peu comme si vous me disiez, bah, la cigale et la fourmi, enfin, deux insectes en train de discuter de ce qu'elles vont manger, c'est complètement irréaliste. Les paraboles, si on les prend au premier degré, elles sont stupides. Si on regarde un petit peu ce qu'il y a dessous, bah, il y a des choses. Et par la force des choses, dans les comics, il y a beaucoup de paraboles.
Alors dans l'article que vous consacrez à la question, là, les présences des politiques dans les comics américains, c'était en septembre dernier dans votre magazine Comic Box, il y a un cas assez drôle où vous expliquez que Loki, le frère maléfique de Thor, se lance dans la campagne présidentielle et c'est une occasion pour les auteurs de mettre en boîte les dérives populistes, donc en quelque sorte de réutiliser le discours de Trump. Hein, Amérique, si j'étais ton président, j'aurais assez de tripes pour te mentir en face et tu adorerais ça.
Oui, c'est ça, c'est une mini-série qui s'appelle Votez Loki, et clairement, là-dedans, Loki, donc, les auditeurs connaissent peut-être, à défaut de le connaître par la BD, le connaissent peut-être au cinéma, donc, qui est le frère maudit de Thor, devient une sorte de super Trump. Et donc, clairement, c'est des choses qui sont peut-être caricaturales, mais que Trump lui-même caricatural aurait pu dire. Ce sont des choses comme ça, une sorte de promesse de oui, je vais être imparfait, oui, je vais vous mentir, mais finalement, les autres le feront aussi sans vous le dire, donc moi, je suis plus honnête.
Il y a une apparition vraiment littérale de Trump dans un magazine, un comic intitulé Spider-Gwen Annual numéro 1. Et dans ce monde alternatif, le rôle du génie criminel MODOK, et en fait, c'est ce qui apparaît dans les pages, c'est le visage de Donald Trump.
MODOK, c'est un ennemi là aussi traditionnel de Captain America. C'est une espèce de grosse tête géante avec des membres vestigiels. On dit ça. Enfin voilà, c'est des
artificiels.
Non, il a des petits bras, des petites jambes. Alors ce qui est rigolo, c'est que quand on s'intéresse un petit peu à la campagne, le vrai Trump ne supporte pas.
Qu'on dise qu'il a des petites mains.
Donc, je pense que ça a été fait à dessin. Donc on a pris ce personnage qui existe depuis les années 60. On dit voilà, une sorte de nouveau MODOK qui est un Trump. Donc on a une tête énorme de Trump avec des petits bras et des petites jambes qui est le super vilain de l'épisode.
Oui, et l'auteur qualifie Trump d'ailleurs d'idiot, il l'a dit sur son fil Twitter, et il considère qu'il a toutes les qualités pour pouvoir interpréter MODOK, raciste, misogyne, voleur, menteur. Il y a aussi vous l'expliquez, il y a eu un Trump a été héros d'un comics à son nom où il c'est un zombie.
Oui, bah ça, c'est, on est vraiment dans quelque chose qui est
Donald of the Dead.
Ouais, c'est de la parodie. Là, y a un moment où on va dire la limite entre l'implication personnelle politique des auteurs et le j'ai flairé un bon coup. Je me souviens des ventes énormes des comic books avec Obama et je veux faire pareil. Il y a un moment où c'est pas très clair aussi. Hein.
Et de fait, Hillary Clinton a droit, elle aussi.
Oui, bah, là, encore,
à ses apparitions dans les comics.
Il y en a eu un cette semaine dans une BD où c'est une super-héroïne qui s'appelle Fess, et alors Fess F-A-I-T-H, qui est donc super contente de rencontrer cette candidate-là, puisque ça peut être, on le saura dans quelques heures, ça peut être la première femme présidente des États-Unis, et donc le point est tout à fait valide, on peut l'entendre, si ce n'est que le personnage, là par contre, là aussi on sent l'idée de vouloir vendre une couverture un petit peu avec un candidat, et que le débat est complètement évacué. C'est-à-dire que là où tout à l'heure je parlais de Savage Dragon, où en général le personnage explique pourquoi il va voter, pourquoi il va supporter tel candidat, là ça se finit avec la super-héroïne Hilar. On a l'impression qu'elle a respiré quelque chose, je sais pas, qui prend des selfies avec Hillary Clinton, et à aucun moment on dira est-ce que son programme est bien ou pas, voilà. Il y a un soutien tacite, mais pas sur le fond.
Est-ce qu'il y a des comics qui mettent en scène Hillary Clinton pour l'attaquer ?
Pour l'instant, non. Je pense que si c'est son élection qu'on voit arriver, ça sera un personnage beaucoup plus difficile à gérer pour les comiques, parce que c'est un personnage moins sympathique, moins neuf aussi. C'est-à-dire qu'elle a déjà été caricaturée en étant l'épouse de Bill Clinton. Il y avait des choses d'ailleurs qui sous-entendaient que c'était elle qui tenait un petit peu le...
Qu'elle était plutôt manipulatrice.
Voilà, qu'elle tenait un peu le pantalon dans le couple. Et donc, c'est déjà... Il y a déjà un pli en ce qui la concerne qui fait qu'elle n'est pas très sympathique, et que je pense que ces apparitions ne seront pas si courantes. Là aussi, la chose basculée du côté de Trump, les attaques seraient pratiquement hebdomadaires ou mensuelles, je pense, dans les comics. Ça a déjà commencé.